Bienvenue dans notre émission en ce jour, Palabre. Et en ce jour, on retrouve avec joie Joyce. Comment vas-tu?
Bonjour Didier, mais très 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 heureuse de te retrouver et de retrouver nos chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Moi je vais très bien avec après des vacances très gourmandes, très familiales, très estivales, je vais très bien.
Alors en ce jour, tu nous proposes donc de nous parler des mythes. Que nous disent les mythes sur notre humanité, sur notre société?
Oui,
c'est la thématique
alors,
de ce jour.
Vacances oblige, nous n'avons pas d'écrivain d'invité aujourd'hui. Donc j'ai choisi de commencer la nouvelle année scolaire, disons, de Radio Arc-en-Ciel en tout cas, par une émission de palabres autour des mythes et la question que tu poses, la problématique, que nous disent les mythes de notre humanité, de notre société contemporaine.
Alors, pour commencer, donc, la question qu'il faut poser, pourquoi as-tu choisi ce thème? Somme toute, assez difficile.
Oui, c'est assez difficile, mais franchement très, très, très intéressant. Et j'espère pouvoir accrocher nos auditeurs sur ce thème-là. Oui, alors, pourquoi les mythes? Parce que les mythes ont évidemment une portée pédagogique. Aujourd'hui, beaucoup veulent se tenir à l'abri de tout, se forgeant une carapace d'indifférence. Le monde contemporain se gargarise avec l'idée de bien-être, de bonheur à tout prix, de santé, de puissance, etc. Or, il est des maux, hein, M-A-U-X, que rien ne peut apaiser. Même si notre époque semble avoir enseveli, le souci de l'âme dont parlait Socrate. On fait croire aux gens que les meurtrissures d'enfance, une fois apaisées, il n'y aura plus de souffrance ni de malheur. Les librairies regorgent d'ouvrages sur le thème de la guérison des blessures du passé et même la dévotion peut être récupérée pour asseoir un pouvoir et contrôler les fidèles. Pendant de longues périodes, le catholicisme s'est appuyé sur une forme d'asservissement doloriste. Ce qui est opposé à la blessure que chantent les mystiques et qui ouvre cette mystique, hein, ouvre à une liberté et à une joie qui rapproche de Dieu. Mais déjà au XVIe siècle, Grégoire le Grand affirmait que l'amour divin touche profondément l'âme, hein, l'âme sensible en tout cas. Chacun de nous a connu des peines et des douleurs amoureuses ou autres pour avoir été trahi, abandonné, pour s'être senti mal aimé, humilié ou encore en raison de l'absence ou de la mort de l'être cher. Mais la blessure spirituelle rappelle à l'être humain ses défaillances, ses petitesses, ses blessures, ses fragilités. Il s'agit de prendre son essor, de s'ouvrir à l'autre ou au tout autre. Notre société de consommation est dangereuse pour l'âme, pour la liberté, parce qu'elle étouffe l'espérance, parce que l'idée du manque la terrifie. C'est le règne de tout, tout de suite. Elle refuse la fragilité, la vieillesse avec ses rides, le nomadisme et la précarité, l'inquiétude, le trouble et même l'insomnie. Les seuls biens désirables sont matériels et deviennent des besoins. Il n'y a plus au fond de la jarre de Pandore, pourrait-on dire, un brimborion d'espérance. On est enfermé dans une servitude volontaire, pour reprendre l'expression de la Boétie, parce que chacun préfère son petit moi, même piteux et souffreteux, plutôt que l'attention à autrui. On oublie que celui qui vient en premier et le demeure est Dieu, et que c'est lui qui mérite toute la gloire et tout l'amour. Aux pharisiens venus l'interroger au sujet du plus grand commandement, Jésus répond, je cite, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et cela, c'est en Deutéronome 6, 5. Mais dans Lévitique, il ajoute encore, 19-18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Renversement tragique. Le commandement idolâtre du monde moderne oblige à s'aimer soi-même d'abord et à se vouloir heureux absolument. Voilà pourquoi j'ai choisi de revisiter les mythes et de voir ce qu'ils nous apportent.
Eh bien, justement, par les mythes, commençons par le mythe de Prométhée, qui est au cœur même de la culture humaine.
Oui, qui est au commencement des commencements. Et oui, le mythe de Prométhée. On l'a dit, hein, les mythes nous touchent parce que leurs personnages ont fait l'expérience de la blessure et en ce sens, Prométhée est emblématique. Prométhée a voulu sauver les hommes du néant et leur a apporté le feu que se réservait le tout-puissant dieu de l'Olympe, Zeus. Il reçoit une atroce punition. Enchaîné sur le mont Caucase, il a le froid dévoré par un aigle, emblème de Zeus, et ce châtiment semble sans fin puisque chaque jour le froid repousse et se régénère. Tandis que les hommes, désormais détenteurs du feu, se montrent tous ingrats, indifférents devant le supplice enduré par leur sauveur, Héraclès libère Prométhée du châtiment éternel en visant d'une flèche l'aigle divin qui dévorait le froid de Prométhée. Héraclès représente la figure de l'homme amené à se dépasser sans cesse et à prendre sur ses larges épaules les maux de l'humanité souffrante. L'homme fort, tel Héraclès, tel Prométhée, est capable de se mesurer aux épreuves et aux dieux. Il est capable d'entrer en communion avec les souffrances d'autrui, même s'il ne cherche ni miséricorde ni reconnaissance. Héraclès a pu fléchir le courroux de Zeus et lui donner une leçon d'humanité. Eh bien, la blessure endurée chaque jour par Prométhée est cela même qui le régénère, le garde vivant. Il ne regrette pas d'avoir compati au triste sort des humains. Il ne perd pas l'espoir de... Et c'est sa blessure toujours ouverte, donc, qui lui permettra de se délivrer. D'être délivré, en tout cas. Le titan, donc Prométhée, a voulu secourir les hommes par sa hardiesse en dérobant le feu. Puis, il les a sauvés grâce à son sacrifice en acceptant l'abandon de tous et la profonde déchirure. Il en est de même pour le prophète Isaïe, le serviteur souffrant, appelé à racheter tous les autres. Sur le plan terrestre, on peut mourir de ses blessures, mais sur le plan spirituel, on vit de la blessure. C'est par elle, par cette blessure, que peut advenir le règne de Dieu. Les prophètes de la Bible le crient à leur peuple, et Jérémie peut clamer, je le cite, « Incurable est ta blessure, inguérissable est ta plaie », et cela en Jérémie 32. Ce sont là des paroles d'amour venues d'un Dieu qui se dit lui-même blessé par l'infidélité de son peuple.
Parlons maintenant du mythe d'Orphée, le premier des poètes, le maître de la poésie lyrique.
Et oui, on le sait, Orphée est un poète de Thrace, comme tu l'as dit, qui par ses chants et sa lyre émeut toute créature. C'est un autre poète, Virgile, qui rapporte son histoire dans le 4e livre des Géorgiques, puis cette histoire est reprise par le conteur Ovide dans ses Métamorphoses au livre 10 et 11. Eurydice, le jour même de son mariage avec Orphée, est piqué au talon par un serpent et meurt. Orphée, inconsolable, se console avec sa lyre et tire les chants les plus désespérés. il décide d'aller chercher Eurydice aux enfers. Il use de sa lyre pour émouvoir Cerbère, le gardien des enfers, le gardien de l'Hadès, et fléchir la loi d'Hadès et de Proserpine, les dieux infernaux. Il obtient de remonter à la lumière du jour avec Eurydice, à la seule et unique condition de marcher devant elle et de ne pas se retourner. Mais alors qu'ils sont presque arrivés, Orphée se retourne et Eurydice disparaît à jamais. Que nous dit ce mythe ? Ce mythe nous dit clairement qu'il n'y a pas de seconde chance. À nouveau, le poète qu'est Orphée s'enferme dans son deuil, dans une déploration qui lui fait mépriser toutes les autres femmes, tout en laissant entendre ses chants déchirants. Les habitants de Thrace, qu'il rejette, se jettent sur lui lors des bacchanales, c'est-à-dire des fêtes à l'honneur des dieux, et dans une action sanglante, elle le tue. La tête d'Orphée flotte avec sa lyre dans le fleuve Hèbre, et la légende dit qu'il continue à gémir. Comment comprendre l'acharnement des bacchantes de Thrace contre Orphée? Eh bien, elles seraient les intermédiaires entre la divinité et les hommes, et pour elles, Orphée symbolise le corps même du dieu qu'elle célèbre en un sacrifice que la raison humaine ne peut comprendre. La première faute d'Orphée est d'avoir voulu oublier la femme aimée, autrement dit, d'avoir voulu trahir l'amour. Il voulait l'oublier par ses chants désespérés. Puis, en bravant les dieux des enfers, il est récompensé de sa vaillance, car Eurydice lui est rendue. Mais il commet la faute irrémédiable de se retourner, de s'approprier le don que lui avaient fait les dieux en lui permettant de ramener Eurydice. Or, l'amour, pas plus encore que la poésie, n'appartient pas aux mortels. Et la troisième faute, c'est le refus de l'amour en ses divers visages. Les femmes de Thrace, prêtresses de Dionysos, donnent à Orphée la véritable mesure de l'amour et de la poésie que Socrate appellera fureur, délire divin. Il faut comprendre que le véritable amour est dépossession et non pas possession, perte totale de soi. Jamais le poète et l'amoureux n'auront le dernier mot. C'est toujours le divin qui triomphe. L'histoire d'Orphée nous laisse entendre aussi qu'il n'y a pas d'amour humain, mais seulement un amour surhumain qui prend l'allure d'une autre fureur, d'un divin délire. L'absolu de l'amour est impossible aux mortels tant qu'ils ne consentent pas à la déchirure irrémédiable, puisque l'amour est souffrance, passir, souffrir. Aimer, c'est mourir, parce que c'est rencontrer l'absolu. La plupart des humains se contentent d'épeler la grammaire amoureuse. Les mystiques et les kabbalistes parlent de la mort dans un baiser, mors in osculo. L'amour anéantit le chant d'Orphée et lui arrache un seul cri, dédié à Eurydice, je cite, « Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur brisé, tu n'as point de mépris. » Mais c'est surtout ce que nous dit le psaume 51. La plupart des poèmes de Jean de Lacroix, par exemple, sont traversés par d'étincelantes blessures. C'est la blessure qui est en elle-même désirable, délectable, parce qu'elle rejoint les plaies du crucifié. la flamboyante Catherine de Sienne, qui reçut les stigmates et mourut à l'âge de 33 ans, a signé les magnifiques lettres Jesu Amore.
Abordons maintenant le mythe d'Achille, le guerrier qu'on croyait invulnérable.
Oui, qu'on croyait, pourquoi ? Et oui, sa mère Thétis l'a voulu invulnérable, mais il fallait bien qu'elle le tienne. Donc, elle le tenait par le talon et il a été rendu vulnérable au talon, marque de sa fragilité. Rappelons d'abord que Achille est le héros de l'Iliade d'Homère. Malgré la précaution maternelle, Achille va mourir. Et nous, dans notre humanité, nous n'aimons guère les héros souffrants, les guerriers invaincus. Notre époque préfère les personnages increvables des dessins animés et des jeux virtuels. Un Superman toujours indemne, un James Bond fringant et gagnant. Telle est la différence entre un aventurier qui survit à tout et ne meurt pas, et un héros qui devient immortel en traversant les épreuves et la mort. Le premier est fictif, nous le savons. Le second porte le poids du réel. Le premier flatte nos illusions. Le second nous enjoint de vivre. De la même façon, nous répugnons à envisager un dieu qui a des plaies et qui meurt sur une croix. Seules les âmes mystiques ressentent que Dieu pleure et s'attriste, qu'il désire, qu'il mendie même, ainsi que le dit le théologien Maître Eckhart. Il faut différencier les gentilles histoires et autres contes bleus des mythes qui ont vocation d'enseigner, comme je l'ai dit au début, les mythes ont tous une vocation pédagogique. Les contes bleus bercent, les mythes éveillent. Mais revenons à Achille, fils d'une déesse, Thétis, et d'un roi, Pelée. Tenant le petit Achille par le talon, Thétis l'avait oint d'ambroisie avant de le passer au feu. Mais apprenant la mort de son ami Patrocle, le puissant Achille, le valeureux guerrier, aveuglé par la douleur, se lance de toutes ses forces contre les ennemis, crie, se démène, il frappe sans merci, taillade, égorge, éventre. Il répand dans les rangs des Troyens le carnage et la mort. Il tue Hector et venge donc la mort de Patrocle, puisque c'est Hector qui avait tué Patrocle. Cette fois, Thétis ne peut le prémunir contre la colère, le chagrin. Elle ne peut l'empêcher de souffrir affreusement. Au fond, la véritable blessure, invisible celle-là, n'est ni dans la prévention des blessures physiques, mais plutôt dans la prévention dans le cœur, la véritable blessure, pardon. Donc sa mère ne peut l'empêcher de souffrir. Pour Achille, qui a survécu à tout jusque-là, la véritable blessure est la mort de son ami Patrocle. Et il n'est, comme je le disais, ni prévention ni remède à ces sortes de déchirements, de brisures. Tous les gestes de Thétis pour immuniser Achille sont de faible poids face à la cruelle absence de son ami disparu. Avant que Paris ne lui décroche une flèche qui le touche au talon, justement, là où il est vulnérable, Achille a reçu en son cœur l'irrémédiable blessure creusée par la mort de Patrocle. Achille est donc vulnérable au talon parce qu'il a été vulnérable dans son cœur, parce qu'il s'est attaché à Patrocle. Contrairement à ce que pensait Thétis, l'invulnérabilité ne confère pas l'immortalité.
Le mythe suivant, le mythe de l'androgyne,
oui,
est un peu particulier.
Il est très particulier parce qu'en fait, c'est le mythe du désir, de la recherche de l'autre, de l'autre partie.
Donc, peux-tu nous en parler ?
Absolument et avec plaisir. En relatant la création d'Ève, la Genèse évoque une unité scindée en deux. La première femme est arrachée aux côtés d'Adam, endormie, et donc elle vient d'une blessure faite au flanc d'Adam. Cette naissance particulière n'induit pas qu'Ève est inférieure à Adam, ni qu'elle dépend de lui, ou qu'elle lui doit allégeance, mais plutôt qu'elle est intimement liée à cette autre moitié. Et elle à lui, et lui à elle, finalement. Et cela dès l'origine. Or, dans le mythe platonicien de l'androgyne, la différenciation sexuelle, l'altérité entre un homme et une femme, sont ressentis comme une séparation, voire comme un déchirement, un espace de questionnement et de rapprochement tout à la fois. Seul le cœur, et non le corps, peut ressentir dans la distance autre chose qu'une séparation. La blessure au ventre de la femme reflète des réalités subtiles liées au sang, mais aussi à la naissance, et bien sûr à l'union amoureuse. La blessure qui saigne est signe d'une perte essentielle. La femme est, au propre mot figuré, un sexe ouvert, et si l'homme a oublié le trou de son côté, s'il le nie, toutes les meurtrissures de son existence raviveront en lui l'image du féminin perdu, car la femme est la part manquante de l'homme. Blessure invisible de l'homme, la femme est la seule, véritablement, à pouvoir le guérir. Dans le roman de Tristan, que nous prenons en exemple, la médecine céleste que dispensent Iseux et sa mère se distingue de la pratique ordinaire des médecins. Le héros masculin représente l'homme mortel en quête de sa nature divine, tandis que la figure féminine, salvatrice, représente la sagesse ou encore l'esprit consolateur. Le héros masculin est véritablement l'archétype de l'humain et la dame l'archétype du divin, ce qui renvoie à la relation entre la créature et son Seigneur, comme nous le montre le Cantique des Cantiques. Or, s'il est une femme décriée, puis sanctifiée, que les évangiles montrent versant du parfum rare, c'est bien Marie-Madeleine. L'évangile de Luc raconte la première rencontre de Jésus avec une femme munie d'un vase de parfum qui n'est pas désigné autrement que comme, je cite, « une pécheresse de la ville » et cela en Luc 7, 36. La scène est très connue, je cite, « se plaçant alors en arrière, tout en pleurs à ses pieds, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignit de parfums. » Fin de citation. Jésus reconnaît en elle une femme au cœur plein d'amour. Marie, donc Marie-Madeleine, de toutes les blessures, amante éperdue, Jésus la crée telle qu'elle l'est en vérité, dans sa beauté que les hommes vils n'ont pas réussi à saccager. eux qui ont eu recours à ces prodigalités. Jésus la reconnaît et l'aime en vérité, elle qui a porté dans son corps les instincts grossiers où se complaisent tant de mal. Et c'est là qu'on voit à quel point la blessure peut être rédemptrice.
On va répondre. Je pense que tu vas nous répondre à cette question initiale.
Oui.
Que nous apprennent ces quelques mythes sur nous, sur notre humanité?
Alors, il y avait tellement de réponses possibles quand j'en ai choisi deux, finalement. Ils nous apprennent la compassion, d'une part, et l'identité masculine. Je vais commencer par la compassion. Les mythes nous aident dans l'exploration de nos terres intérieures. Le mythe offre toutes sortes de lectures. Il n'est ni dogmatique, ni univoque. Il offre des figures archétypales que chacun peut rencontrer à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'un cœur compatissant? C'est la question que pose au 7e siècle le moine Isaac le Syrien, fugitivement évêque de Ninive, je dis fugitivement parce qu'il a été seulement pendant quelques mois. Je lui donne la parole, je cite. « Un cœur compatissant, c'est un cœur qui brûle pour toute la création, pour les hommes, pour les oiseaux, pour les bêtes, pour les démons, pour toute créature. Son cœur se brise lorsqu'il voit le mal et la souffrance de la plus humble créature. » Donc c'est ce que répond Isaac le Syrien pour définir un cœur compatissant. La béguine Adwich d'Anvers ajoutera, je la cite, « Ah, rien ne m'a tant blessé que la compassion, sinon l'amour même », fin de citation. Mais contrairement à la voie bouddhique qui enseigne à dépasser la souffrance par le non-désir, le mystique occidental va de fêlure en déchirure. Sur le plan spirituel, le chemin va de la blessure à la compassion et à l'offrande de soi. Le sens ultime de la charité est le sacrifice de soi. Le mystique, que la vie a rarement épargné, fait de ses brisures une fontaine d'amour et de consolation. « Je suis blessé d'amour, » dit l'épousé du cantique, que Maître Eckhart, appelle, je cite, « le livre de l'amour ». Être blessé d'amour, c'est se sentir mis à nu, mais aussi être vivant d'amour. L'union des amants est une fulguration qui ne s'inscrit pas véritablement dans la durée, et c'est Georges Bataille qui nous le dit, je le cite. Peut-être le sens de l'amour divin est-il de nous donner le pressentiment de l'immensité contenue dans l'amour d'un être mortel, fin de citation. Nous le savons, il n'est pas de rose sans épines, ni d'amour sans blessure. Mais il y a des souffrances qui n'éclairent pas. Le contraire d'un amour heureux n'est pas un amour malheureux. Ce qui surmonte l'amour contrarié, c'est la folie d'amour sublime dont témoigne Roméo et Juliette, Héloïse et Abélard, Don Quichotte, l'amour qui les a brûlés et blessés, les a, eux, esselés, éloignés des leurs et des mensonges. Ce n'est pas parce qu'un amour se révèle impossible qu'il est malheureux. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas s'accomplir charnellement ou parce qu'il n'est pas payé de retour, qu'il est privé de réalité et dépourvu de valeur. Seul le fou d'amour le sait Et Aymeric de Péguillan peut s'écrier, je le cite, « Et moi le fou, j'ai joie de ma douleur et de ma mort à voir votre visage. » Fin de citation. La compassion est un des noms de l'amour. Contrairement à l'entraide ou à la solidarité, il ne s'agit pas d'un sentiment humain. Sur le plan terrestre, compatir, c'est souffrir avec l'autre. Sur le plan spirituel, le compatissant devient agent de la compassion divine en ce monde. Tel est le chemin christique, l'unique voie de guérison.
Tu nous as donc parlé de la compassion, de l'amour. Mais en quoi les mythes peuvent-ils nous enseigner sur l'identité masculine ?
Oui, excellente question que je n'ai pas la prétention d'explorer entièrement, loin de là. Mais je vais partir d'un exemple. Prenons l'exemple de Tristan dans le Tristan de Bérulle, vers 1172. Tristan, le champion valeureux, est atteint dans ses forces viriles. Il reçoit une blessure à la hanche qui est un véritable handicap pour sa virilité. Non, il n'est pas rendu impuissant, mais pour un temps, il est condamné à la latence et à l'attente. L'ordinaire activité sexuelle est mise donc en sommeil. La blessure marque le passage d'un éros tourné vers les œuvres de chair, qui, elles, sont passagères, à une érotique qui devient une mystique où l'amour ouvre aux réalités invisibles, à l'abandon d'un éros destructeur pour un éros transfiguré et salvateur. Iseux se penche sur Tristan et l'oriente vers une haute image et une haute, mais aussi une autre image de la virilité et vers une forme d'amour qui ne méprise pas le corps, mais l'illumine. Être un mâle, ce n'est pas être un homme. C'est une donnée naturelle. L'identité masculine ne se réduit pas à des considérations anatomiques, à des capacités sexuelles, à des capacités de fécondation. La médecine que propose Iseux est une médecine d'amour. Elle ne consiste pas à prendre, mais plutôt à apprendre. L'homme est libéré de ses fausses identités, de ses prouesses sexuelles factices, et l'homme endommagé qu'est Tristan est ainsi réparé dans sa virilité, dans sa stature d'homme. Certes, après sa rencontre avec Iseux, Tristan n'est pas à l'abri de nouvelles meurtrissures. Il ne cessera de s'écorcher par amour et pour l'amour. Il sera fou, mendiant, pénitent, banni. On connaît sa suite tragique. Et comme Juliette, Iseux, en découvrant le corps inanimé de son amant, ne peut retenir sa vie et finalement, ils resteront unis par-delà le temps et la mort, mais dans la mort. Dans un essai sur l'amour intitulé « La flamme double », le poète Octavio Paz écrit, je cite, « Le baume qui cicatrise la blessure du temps se nomme religion ».
Merci Joyce pour cette belle émission autour des mythes et surtout de notre humanité sur notre société.
Merci toi Didier pour tes questions. Merci surtout à nos auditeurs d'avoir fait le choix de Radio Arc-en-Ciel. On leur souhaite bonne écoute et on se retrouve très bientôt.